Épisode 1, Magellan.
La gente non si contenta solo di conoscere le grandi e mirabili cose che Dio mi ha concesso di vedere in questa mia lunga e perigliosa navigazione. Comincio col dirvi, illustratissimo, eccellentissimo signor mio, mentre mi trovavo nel 1508 nella Spagna, alla corte di Carlo.
Je suis né à Sabrosa, au Portugal, dans la province de Trás-os Montes. Ma famille est une des plus distinguées, des meilleures et des plus anciennes du royaume. Mon père, Ruy de Magellanes, Fidalgo de Cota de Armas y Galassao, que était insignias de nobleza, appartenait à la petite noblesse, ce qui lui permit d'entrer à la cour. J'y devins avec mon ami Francisco Serrao, page de la reine Léonore. À la cour, on ne parlait que de ces terres lointaines, découvertes par Christophe Colomb et des richesses rapportées par Vasco de Gama qui avait contourné l'Afrique pour atteindre les Indes. Nous, les pages, nous rêvions tous de nous embarquer sur quelques navires. Nous n'avions qu'une seule idée en tête, participer aux découvertes, revenir chargés d'or et de gloire. Ainsi, à la première occasion, Francisco et moi avons rejoint l'équipage de Don Francisco de Almeida qui commandait une armada faisant voile vers la côte orientale de l'Afrique. Nous avions 16 ans. C'était mon premier voyage. Cette flotte de 20 navires avait pour objectif de créer des entrepôts entourés d'un fort pour les protéger, mais en réalité, il s'agissait de prendre possession de tout l'Extrême-Orient. Avant le départ de cette flotte, Vasco de Gama en personne avait donné conseils et instructions au capitaine. On franchit le détroit de Mozambique, on aborde les côtes des Indes, Kilauea et Mombasa sont prises et pillées. Nous livrons une dure bataille à Cananore contre les Amorins de cette ville bien armée par les Vénitiens. La flotte poursuit son exploration, et c'est ainsi que je suis arrivé sous les ordres de Lopez de Sequeira à Malacca, le 11 septembre 1509. Le sultan nous envoya une délégation. Bien sûr, il craignait nos canons.
Soyez les bienvenus, que vos officiers viennent partager nos collations, que vos hommes descendent à terre et se reposent. Si en outre vous désirez commercer, vous trouverez ici les clous de girofle des îles, l'ivoire de Siam, la porcelaine de Cathay et les soieries de Cipango. Et des esclaves.
Je sais bien que la religion interdit de posséder un esclave, mais il me fallait un serviteur. Car un seigneur, s'il n'a pas de serviteur, n'est pas un seigneur. Refusant de déchoir à mes propres yeux pour quelques maravédis, j'ai donc acheté un esclave. Un serviteur sur le marché de Malacca, et comme c'était la Saint-Henri, je le nommais Enrique. Il ne me quittait pas, me suivait partout où j'allais, il était comme une ombre collée à ma personne. Nous partagions la même cabine. Pendant que moi j'étudiais à bord, mon ami Francisco Serrao, lui, préférait s'amuser dans les maisons de thé, en compagnie des hommes d'équipage qui étaient descendus à terre. Il se gavait de mets épicés, de boissons malaises enivrantes et s'adonnait au plaisir de la chair. Notre amiral, Lopez de Sequeira, quant à lui, jouait tranquillement aux échecs. Il s'imaginait que le sultan de Malacca lui donnerait satisfaction plutôt, qu'il lui permettrait de charger rapidement ses navires et de le laisser partir. Mahmoud, de son côté, pensait les choses tout autrement.
Ces navires de l'amiral Sequeira seront à moi. Pas un de ces hommes ne reviendra à Calicut, à Goa ou à Cananore. Pas un ne survivra. Que 1000 praos entourent leur nef. À mon signal, un drapeau vert, mes hommes prendront lances et poignards et s'élanceront. Quant aux Portugais répandus dans la ville, leur sort sera vite réglé.
C'est Garcia de Souza qui s'est aperçu le premier de la manœuvre du sultan. Il trouvait anormal le nombre d'esquifs qui soudain entouraient nos navires. Il m'a aussitôt ordonné de me rendre à bord de la nef amirale pour avertir Sequeira. Le branle-bas de combat fut immédiat, et nous tirons des coups de canons effrayants qui repoussent les embarcations. Mais pour les amis descendus à terre, j'ai pris une chaloupe et avec quelques hommes nous avons gagné le rivage. Il n'était pas question d'abandonner Francisco. Tout semblait calme, pas âme qui vive. Quand soudain, poursuivi par une foule hurlante, il a surgi d'une ruelle avec à ses trousses une multitude armée de couteaux et de gourdins. Nous leur avons déchargé quelques coups d'escopette et nous avons réussi à sauver notre compagnon. Mais les autres, 60 de nos hommes, tués dans les rues de Malacca par des sauvages ivres de haine.
Je n'oublierai jamais ce que Hernando fit pour moi. Quel courage, quelle bravoure. Ce jour-là, il démontra auprès de tous les hommes quel chef il était. Notre amitié, déjà ancienne, était scellée. Nous savions qu'il existait désormais entre nous un lien qui ne saurait se distendre, quels que soient les événements futurs. En juste représailles, après 6 semaines de siège, nous avons mis à sac la cité du sultan Mahmoud. Ensuite, l'amiral nous accorda à l'un et à l'autre des commandements et des ordres de mission. À Magellan de rentrer au Portugal en convoyant un navire rempli d'épices, à moi de poursuivre les explorations, car nous devions à tout prix mettre la main sur les îles situées derrière le détroit de Malacca. Je n'ai plus jamais revu Hernando, mais pendant de nombreuses années, nous sommes écrits. Je lui écrivais au Portugal. Mes lettres mettaient à peine 6 mois pour lui parvenir depuis l'île d'Amboine, dont je suis devenu le gouverneur, à la faveur d'une aventure si peu commune qu'il convient que je la raconte.
Tre rose adorano l'araldo, guardiane dell'ignoto in alto mare e le 5 navi nel porto di Siviglia, pronte a salpar con il capitano generale. Partimmo come uomini del tempo, cuciti alla rudezza e all'estremo tentativo. La notte chiamava San Lorenzo, stella dopo stella, a capofitto nel mare.
Le vice-roi des Indes, le seigneur d'Albuquerque, après avoir pris la ville de Malacca, était décidé à poursuivre sa recherche des îles Moluques. C'était son obsession. Clous de girofle, gingembre, cannelle, poivre, toutes ces épices valaient leur pesant d'or. Pour tout vous expliquer, quand un homme était riche, on disait qu'il était né dans le poivre. Ainsi, pour s'enrichir au plus vite, je veux dire pour enrichir la couronne le plus rapidement possible, le vice-roi, plutôt que de commercer avec des intermédiaires, décida de faire main basse sur la source même de tant de trésors. Il désigna 3 hommes, Antonio de Abreu, Simon Alfonso Pisagudo et moi-même. Non que j'étais aussi excellent capitaine que mes 2 compagnons, mais j'avais l'avantage de connaître plusieurs langues indigènes, toutes apprises dans les salles de jeu et les bas-fonds de Calicut. Chacun de nous commandait une caravelle légèrement armée. Nous partions en éclaireur. Après une tempête, mon navire s'écarte de la flotte et s'échoue sur l'île de Lucopino. Par un heureux hasard, un petit navire d'indigènes nous recueille. Ce navire revenait de Malacca et regagnait précisément l'île d'Amboine, l'une des Moluques que nous recherchions avec tant d'empressement. Comme je parlais leur langue, je sus me faire entendre et c'est bien volontiers qu'ils nous ont embarqués. L'île d'Amboine, il y avait là tant de vivres, des bois entiers de sagousses qui fournissent de la moelle pour faire du pain. Pour breuvage, ils prennent le touac, une boisson dont on s'enivre aisément, et une noix de coco en fournit plus de 2 bouteilles par jour. Sur cette île, il m'arriva la circonstance la plus heureuse de ma vie. Les rois des îles voisines, Ternate et Tidore, se livraient depuis des années une guerre sans issue. Ces 2 rois, ayant appris mon arrivée à Amboine, me sollicitèrent et me demandèrent de prononcer un arbitrage. Je mis en œuvre la bonne vieille méthode des cours européennes et je réconciliai les souverains en mariant la fille de l'un avec l'autre. Les 2 rois s'en trouvèrent satisfaits, si bien qu'ils me prièrent de rester en leurs îles. Je m'installai à Ternate et j'épousai une sauvagesse qui me donna 2 enfants. Et, ma foi, je m'installai si bien en ces terres que j'en devins le vice-roi. J'écrivais à mon ami Magellan et lui disais que j'avais découvert un nouveau monde plus grand et plus riche que celui de Vasco de Gama. Je voulais qu'il vienne, qu'il me rejoigne. Au lieu de cela, après un temps encore passé à Malacca sous les ordres d'Albuquerque, il s'en retourna au Portugal après 7 années passées aux Indes. Qu'espérait-il? De la reconnaissance? Il rêvait, tout jeune déjà, d'une glorieuse destinée, mais sa vie n'a jamais été qu'un dur combat contre les hommes, et presque toujours, la chance lui a fait défaut. À peine la fortune semblait-elle lui sourire, aussitôt il sombrait dans quelques catastrophes dont seule sa ténacité le sauvait. Magellan. C'était un homme modeste, timide, secret, de petite taille. De plus, il ne disposait d'aucune éloquence. Son verbe était court, sans apprêt, ce qui pouvait le faire passer pour un taciturne. La flatterie lui était étrangère, et sa jambe se pliait mal quand il s'agissait de faire la révérence au grand du royaume. Revint-il à Lisbonne, ô ingratitude des hommes et des rois, qu'on lui refusa tout. Sa demande d'augmentation de sa pension fut rejetée, au mépris des services qu'il avait rendus dans les Indes. Lui qui ne rêvait que de reprendre la mer, se fit refuser tout commandement. Et pourtant, quel marin ! Il ne craignait aucun typhon, affrontait le gros temps avec une aisance si naturelle qu'il semblait dompter les tempêtes. Il était capable de mener tous les équipages.
Bienheureux sois-tu, ami Antésil. Ici, le roi Manoël prépare une grande expédition pour reconquérir Alzamor, à l'embouchure d'Umhéribia, au Maroc. L'expédition compte plus de 2000 cavaliers, 13 000 hommes, embarqués sur une flotte de 500 vaisseaux sous les ordres de Jem, le duc de Bragance et neveu du roi.
Le temps que cette lettre te parvienne, j'imagine que cette bataille a déjà commencé. Et te connaissant, Hernando, je ne doute une seconde que tu te sois jeté dans la lutte avec la même ardeur, la même bravoure qu'à Malacca. Je sais que tu joues de l'épée avec dextérité. Alors que ta langue est empâtée, que tu as toujours tant de mal à aligner convenablement ta pensée, il suffit que l'on mette entre tes mains une lame pour que l'on s'aperçoive que la pointe de ton épée parle pour toi. La garde haute, le port est souple, tu tailles en pièces quiconque cherche querelle.
Dans cette lutte contre les morts, j'ai été blessé d'un coup de lance qui m'a percé le genou gauche. Je crains de rester boiteux pour le restant de mes jours. En remerciement, le capitaine Soares m'a confié la garde des enclos où sont parqués chevaux et moutons pris aux morts. Ces bêtes n'en font qu'à leur tête. Elles ne craignent ni mon épée ni mon poignard et ne se laissent nullement impressionner. Je leur avais prescrit de ne pas quitter leur enclos, de rester groupés. Malgré ces ordonnances, certaines d'entre elles ont déserté la bergerie. À l'issue d'une gigantesque bataille où des dizaines de compagnons ont perdu leur vie, cela prêterait à rire, mais l'on m'accuse d'avoir vendu ces bêtes à l'ennemi. Oui, tu entends bien, je suis calomnié. Des langues perfides, jalouses de mes exploits aux Indes, salissent ma personne, font de moi un maquignon, un revendeur de bétail. Moi qui ai eu 100 fois l'occasion de m'enrichir, à Malacca, à Malabar, sur les côtes d'Afrique, en tous ces endroits nous étions ensemble, j'aurais pu acquérir une fortune colossale en ces terres, mais je n'ai jamais songé à commercer pour mon propre compte. Il m'est impossible d'accepter pareille diffamation. Moi, accusé d'être un voleur de bétail, je dois me rendre au Portugal, exposer mon affaire à Sa Majesté qui réhabilitera mon honneur.
Magellan était ainsi fait qu'il supportait avec vaillance les blessures infligées à son corps. Il souffrait de son genou dont l'articulation avait été tranchée. Il avait également perdu un œil lors d'une bataille. Tout cela, il s'en accommodait, considérant que c'était le sort du soldat. Mais que l'on ose piquer son honneur, salir sa réputation, cela était inadmissible. Sans demander la permission de son commandant, il prit le premier bateau pour le Portugal où il entendait plaider sa cause. Dès son arrivée, il demande audience au roi.
La cour, mon ami, quel mépris, quelle arrogance, tous ces courtisans richement vêtus, toutes ces perles qui ornent la gorge des femmes, tout cet or qui recouvre le palais, et moi, officier subalterne sortant d'un champ de bataille qui patiente dans une antichambre. Le roi m'a reçu, il n'a rien voulu entendre. Sa Majesté m'a réprimandé d'avoir quitté mon poste, elle m'a ordonné de regagner Alzamor où je serai jugé.
Hernando, mais c'est la meilleure des choses qui puissent arriver. Car enfin, si Sa Majesté t'ordonne de retourner au Maroc, c'est pour que tu sois jugé devant les tiens, devant tes hommes, qui tous connaissent ta bravoure. Tu es auréolé de tes campagnes aux Indes, glorieux de tes blessures devant lesquelles les misérables peccadilles dont on t'accuse seront emportés comme un phoque par une fortune de mer. Tu seras innocenté, lavé de tout soupçon par tes pères. C'est alors que tu pourras rentrer au Portugal, libre et innocent, recouvrant aux yeux de tous l'autorité de la cause gagnée.
Je n'ai pas eu à plaider. Les accusations se sont effilochées, les accusateurs ont disparu, et je suis retourné une seconde fois au pays. Cette fois muni de toutes les autorisations. Je me suis présenté une nouvelle fois à la cour demandant audience à Sa Majesté. De tous les courtisans, j'étais le dernier. Et ils me sont insupportables avec leur manière de trousser des compliments non plus finir, qui pour obtenir des faveurs, qui pour soutirer un avantage pour le gain duquel il n'a rien fait par lui-même. J'ai bien préparé ma plaidoirie. D'abord, demander une augmentation de ma pension parce que je le mérite. Ensuite, qu'une distinction te soit conférée à toi, Francisco Serrao, pour ta découverte des îles aux épices. Hélas, quand c'était mon tour de présenter mes respects à Sa Majesté, ma langue est restée collée au palais. Aucun mot n'est sorti de ma bouche. Et je n'avais personne, aucun truchement ni protecteur qui appuie ou formule mieux que moi ce que j'avais à dire. Allais-je quitter la salle après avoir déposé ma ridicule révérence ? Je me suis redressé, gonflé de l'assurance des disgraciés, la tête haute, je me suis avancé. J'ai remis au roi les documents du jugement qui prouvaient mon innocence. Mais avant que je prononce la moindre parole, Sa Majesté m'a dit « non et non ».
Le prédécesseur de notre souverain, Roao II, avait, lui aussi, méprisé Christophe Colomb quand ce dernier lui suggéra d'organiser les premiers voyages de découverte. Qu'a fait le Génois ? A-t-il insisté ? Non. Il s'est rendu en Castille et, s'entourant d'amis efficaces, il a présenté au roi d'Espagne le projet que le roi du Portugal avait dédaigné.
J'ai demandé à Sa Majesté si elle voulait m'accorder l'honneur de commander l'un de ses navires en partance pour les Indes. J'ai encore essuyé un non royal. Devant les trois refus réitérés de Sa Majesté, je me suis effectivement rappelé l'histoire du Génois. Le roi du Portugal verrait-il avec déplaisir un de ses sujets passer au service d'un autre roi ? Un de ces sujets qui n'a plus rien à attendre en ce royaume ?
Sais-tu que Colomb est revenu à Séville, les fers aux pieds ? Pour approcher le jeune roi, il faut être introduit en son entourage, avec diplomatie approché de hauts dignitaires qui sauront lui présenter tout l'intérêt de ton projet. Et ton projet, quel est-il ? Tu ne vas tout de même pas t'adresser à l'empereur Charles en lui disant Sire, je veux rejoindre mon vieux compagnon Francisco Serrao, établi dans les îles Moluques. J'entreprendrai ce voyage en emmenant avec moi mon serviteur Enrique, natif de ces îles et qui brûle, lui, d'y retourner, moi d'y retrouver un ami. Donnez-moi un navire, un équipage, confiez-moi le commandement et j'irai avec lui me prélasser sous les palmes. Non, il faut que tu élabores un projet qui l'intéresse, qui compromette Sa Majesté, qui suscite sa passion. Le roi est jeune, d'un caractère emporté. C'est un excellent cavalier, grand bretteur, mais également un grand lecteur. Sais-tu qu'il admire le roman d'Amadis et que les exploits de ce chevalier ont subjugué son imagination ? Son esprit encore adolescent s'enflamme aux récits les plus invraisemblables. Il n'a que 19 ans, sa connaissance d'astrologie se mêle à une extravagance juvénile. Tu dois donc trouver les mots qui exultent ses propres désirs de voyage, qui satisfasse ses rêves les plus fous, tout en restant dans les limites du respect que tu dois au plus grand des souverains du monde. Dis-lui, en grande confidence, ce que nous savons tous mais que personne n'ose affirmer. Dis-lui que la terre est ronde.
Tu veux que je passe devant le tribunal du Saint-Office ? Que je finisse en hérétique sur un bûcher ? Mais tu sais bien que l'Église...
L'Église est une sainte institution, dirigée par des hommes. Et l'homme le plus puissant pour les affaires des Indes, c'est l'évêque de Burgos, le cardinal Fonseca. La Casa de la Contratación est sous ses ordres. Rien ne se fait dans le Nouveau Monde sans son assentiment. C'est donc l'évêque de Burgos qu'il faudra convaincre en premier. Non par les rêves que tu réserveras à Sa Majesté, mais par des arguments réfléchis, allant dans le sens des intérêts de l'Église. Tu lui diras qu'il s'agit de répandre la foi dans des terres nouvelles, de convertir des peuples païens, que tu emmèneras dans ton périple un prêtre dont la mission sera d'évangéliser. N'oublie pas ce que disait Christophe Colomb. Les Espagnols souffrent tous d'une étrange maladie que seul l'or peut guérir. Tu diras donc à l'évêque de Burgos que tu rapporteras de ces îles des richesses destinées à célébrer la gloire de Dieu.
C'était Magellan, le premier tour du monde, avec Dimeo Giovanni, Antonio Pigafetta, Nicolas de Gremont, Magellan, Patrick Baucher, le sultan Mahmoud, Pascal Fructus, Francisco Serrao,